أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وظليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux qui nous guident sans cesse sur le droit chemin. Nous remercions Dieu le Seigneur de nous avoir donné cette opportunité, notre foi d'être ensemble. Nous ne cesserons de le louer, de le rendre grâce du fait qu'il nous a une autre fois accordé, n'est-ce pas, la source de vie. Chers frères, chers sœurs, comme vous le savez, nous sommes toujours dans notre même émission qui est Al-Akhlaq, l'éducation. Dans les émissions précédentes, nous avions parlé ou traité la question de la définition de l'éducation étymologiquement, techniquement. Nous avions aussi parlé de la nécessité du fait de purifier, n'est-ce pas, son âme. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder notre sujet. Et ce sujet n'est rien d'autre que les motivations de l'éducation de l'âme. Quelles sont les choses qui motivent l'être humain, motivent le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala à la purification, n'est-ce pas, de son âme. Alors, les savants ont essayé de mettre en évidence trois éléments qui amènent l'être humain à la purification, n'est-ce pas, de son âme. Il dit que c'est à la suite de ces trois éléments-là que l'être humain essaye de s'orienter vers, n'est-ce pas, l'éducation de son âme. Premièrement, ils disent que l'éducation de l'âme est en fait un combat qu'on appelle le djihad. Dans l'émission précédente également, nous avions touché cet aspect-là. Mais dans les motivations, cet élément revient une seconde fois. Nous avions cité l'hadith qui mettait en évidence que il y a des personnes que, une fois revenus de la bataille, de la guerre, lorsque ceux-ci sont revenus du djihad face aux mécréants, face aux polythéistes, ils ont vu ça comme quelque chose de colossal, quelque chose de grand. Alors le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a reçus, il les a dit ceci: Marhaban bi qawmin qadaw al jihad al asghar wa alayhim al jihad al akbar. Il dit: bienheureux les personnes qui ont effectué le petit bataille et qui devront se préparer pour faire, n'est-ce pas, la grande bataille. Ces sahaba ou compagnons étonnés posa cette question de savoir: Ya Rasulallah, mal jihad al-akbar. Oh, Saint prophète, quelle est, n'est-ce pas, la grande bataille? Et le prophète dit: Qala Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, jihad al-nafs, c'est, n'est-ce pas, la bataille de l'âme. C'est-à-dire le combat que l'être humain fait face à sa propre personne, face à son âme. Encore dans le Saint-Coran, sourate Hajj, le pèlerinage, verset 78. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: Wajahadu fillahi haqqa jihadihi. Il dit: combattez sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, c'est-à-dire dans le vrai bataille. Les ulémas ici nous disent que jihad qui a été mis en évidence ici fait allusion, n'est-ce pas, à les deux batailles, c'est-à-dire le fait de combattre les infidèles à accepter l'islam, ou bien le fait de les combattre parce que les traités et les pactes qui ont été signés entre nous n'a pas été respecté. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour aller attaquer des personnes parce qu'il faut, n'est-ce pas, les attaquer. Ce qu'on appelle djihad a, n'est-ce pas, ses droits, a ses règles bien données dans le fiqh, n'est-ce pas, islamique. Donc, comme notre sujet ici n'est pas le fiqh, je ne crois pas que nous allons aborder en long et en large ce sujet. Mais il faut dire que le fait de combattre les incrédules, les mécréants, ce n'est pas quelque chose que toute personne faut se livrer à aller combattre en disant que c'est le djihad. Le djihad a ses règles, eux, n'est-ce pas, a ses obligations, eux, le pourquoi, n'est-ce pas, des djihad. On ne se lève pas comme ça. Donc la majorité ou la majorité des savants disent que ce sont les deux, c'est-à-dire combattre les incrédules et de le fait de combattre, n'est-ce pas, son âme. Mais ils disent que le verset fait plus allusion au fait de combattre, n'est-ce pas, son âme. Parce que si l'être humain a pu combattre son âme, comme il se doit, le fait de combattre son prochain, le fait de combattre, n'est-ce pas, les ennemis, devient, n'est-ce pas, plus facile pour lui. Deuxièmement, les motivations qui amènent l'être humain à purifier, n'est-ce pas, son âme, éduquer, n'est-ce pas, son âme, et que l'éducation de l'âme, c'est en fait une médecine spirituelle. C'est-à-dire, l'être humain a toujours besoin d'un docteur, un médecin pour éduquer, n'est-ce pas, son corps. Éduquer ici, je veux dire, pour prévenir, n'est-ce pas, les éventuelles maladies. Voilà pourquoi on nous dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc on a toujours besoin des médecins traitants, ceux vers qui, quand nous sommes malades, nous partons chez eux pour se faire, n'est-ce pas, soigner. Alors, souvent, même si on n'est pas malade, pour, n'est-ce pas, prévenir, n'est-ce pas, les éventuelles maladies. Donc, l'âme également a besoin des docteurs, ceux-là même qui vont en fait purifier son âme, qui vont donner, n'est-ce pas, des préventions pour que l'être humain ne tombe pas, n'est-ce pas, dans le désordre. Dans le Saint-Coran, concernant les maux de l'âme, il nous cite dans. Nous avons à peu près 12 versets qui traitent, n'est-ce pas, cette question. 12 versets, c'est comme ça que les savants ont mis en évidence. Mais si je dis 12, cela ne voudra pas dire que je me suis référé directement au Saint-Coran et moi-même chercher, n'est-ce pas, ces 12 versets-là. Mais en fait, les chercheurs sont fait des recherches et ont ressorti, n'est-ce pas, ces 12. Donc, il ne faudra pas qu'on dise que Oussaz a dit que c'est 12, donc c'est forcément lui-même, c'est le résultat de ses recherches. Non, ce n'est pas le résultat de mes recherches, mais c'est ce que les savants, n'est-ce pas, ont dit. Alors, celui qui veut bien même peut essayer de se référer au Coran pour voir réellement si c'est 12 ou ce n'est pas 12. Et le nombre 12 aussi n'a pas, comment dirais-je, trop d'effet ici, parce que nous voulons mettre en évidence qu'il y a beaucoup de versets qui parlent de ces mots, sans pour autant même définir le nombre. Ça veut dire que le nombre n'a pas trop d'utilité. Sinon, si ça avait d'utilité, on allait se référer au Coran de la sourate Al-Fatiha jusqu'à la sourate Nas pour essayer de vérifier. Alors donc, c'est comme ça, les savants ont dit qu'il y a 12 versets traitant la question des mots, n'est-ce pas, de l'âme. Dans Sourate Baqara, verset 10, Allah dit ceci, Fi qulubihim maradun, que ceux-ci ont un mal dans leur cœur. Fazadahumullahu maradan, et Allah subhanahu wa ta'ala les a ajoutés, n'est-ce pas, un mal. C'est-à-dire, ils ont des maux qui est maradun nifaq, qui est l'hypocrisie, qui est la mère même des maux. Il y a aussi le mensonge aussi qui est en fait qui en fait partie. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence que ceux-ci ont un mal dans leur cœur. Ici, ce n'est pas une maladie corporelle, physique même, c'est maradun chaq. C'est le mal de, n'est-ce pas, du doute de toutes choses. Ne veulent pas croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les cœurs qui n'ont pas été touchés par ces genres de mots, le Saint-Coran l'appelle al-qalb salim. Là, le cœur saint. Yawma la yanfa'u comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Saint-Coran, bismillahirrahmanirrahim, sourate Shu'ara. Les poètes, à partir du verset 87 à 89, du ceci, Yawma la yanfa'u malun wa la banun, illa man atallaha. Le jour où ni les biens, ni, n'est-ce pas, les enfants seront utiles pour l'être humain, sauf celui qui vient vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur. Et l'imam Ali alayhi salam, parlant des caractéristiques du saint prophète, nous dit ceci: Tabibun dawarun bitibihi. Le saint prophète Mohammed est un médecin qui se promène pour remédier aux maux, n'est-ce pas, des gens. C'est un médecin. Il a la capacité de remédier aux maux, n'est-ce pas, des gens, mais il ne se soit pas chez lui pour attendre, n'est-ce pas, les malades, mais il va vers, n'est-ce pas, les malades. Troisièmement, c'est le fait de voyager vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle as-sayr was-suluk, le fait de voyager, n'est-ce pas, vers Allah subhanahu wa ta'ala spirituellement, n'est-ce pas, je vais dire. Donc ici, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes de Dieu, donc nous partons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est un cheminement. C'est un voyage. Alors, lorsque l'être humain connaît comment on appelle, l'étendue de son voyage, il aménage, n'est-ce pas, sa monture. Alors, donc, quand tu es conscient de la longévité ou la distance de ton voyage, tu devrais, n'est-ce pas, aménager ta monture. Donc, nous sommes amenés à partir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est un voyage. Alors, ici, il y a le voyage physique que nous faisons, mais hein, il y a un voyage spirituel. Dans ce voyage spirituel-là, nous avons un acquis. Cet acquis-là, c'est Al-Qalb Salim. C'est, n'est-ce pas, un cœur pur. Alors, le cœur pur que nous avons, nous devrons, n'est-ce pas, se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala avec, n'est-ce pas, ce cœur pur-là. Donc, nous voulons éduquer notre cœur, nous voulons partir vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais comment? Donc, spirituellement, il faudrait que nous soyons propres spirituellement afin de partir à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'était notre premier aspect. Deuxième aspect de notre intervention est que quelle est la différence qu'il y a entre l'éducation spirituelle islamique ou religieuse et religieuse islamique avec, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'éducation à but lucratif. La différence est que d'abord nous avons deux différences. Première différence est, n'est-ce pas, l'intention. Deuxième est l'objectif ou les buts. Concernant l'éducation spirituelle islamique qui diffère de celui de l'éducation à but lucratif est que il y a l'intention qui les sépare. Imam Ali alayhi salam nous dit An-niyatu asasul amal. Il dit c'est l'intention qui est la base de toute chose. Donc c'est l'intention qui détermine, n'est-ce pas, les actions que nous voudrons, n'est-ce pas, entreprendre. Battre un enfant n'est pas mauvais en soi, battre un enfant également mauvais. Ça va dépendre du pourquoi. Si je bats un enfant pour l'éduquer, ça n'y a pas de problème. Mais si je bats un enfant parce que je veux le battre, ça devient automatiquement quelque chose de néfaste. Donc ici, l'éducation, c'est l'intention qui va essayer de déterminer. Donc, concernant les musulmans, les religieux, ils se disent que l'intention est quelque chose de spirituel, quelque chose qui n'est pas physique. C'est quelque chose qui est métaphysique, qui est interne. Alors, quand c'est interne, ça va influencer le comportement de l'être humain. Donc, l'imam Ali alayhi salam dit de l'autre côté, Takallamu tu'rafu fa innal mar'i makhbu'un tahta lisani. Il dit, parlez et on saura qui vous êtes vous, car l'être humain est caché sous sa langue. Ça veut dire quoi? Le reflet que l'être humain a devrait être poussé, devrait être soutenu par son comportement interne. Non, en fait, l'être humain, son comportement détermine sa personne. Alors, donc, L'éducation islamique commence d'abord par l'intention, commence par l'intérieur, eux, n'est-ce pas, se propage sur le corps de l'être humain. Par contre, de l'autre côté, quand le comportement est à but lucratif, là-bas, c'est les intérêts, n'est-ce pas, nous regardons. On regarde, est-ce que l'action que nous devrons poser, ça va avec notre intérêt ou pas? Si ça concorde avec l'intérêt, nous acceptons. Si ça va contre nos intérêts, n'est-ce pas, on le rejette. Donc, va, à ce moment, il y a un slogan qui serait mis en place qui est la fin justifie les moyens. Parce que moi, oui, je me comporte comme il se doit. Pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est un devoir, mais parce que c'est mon objectif qui est visé. Donc ici, d'abord, c'est d'abord l'intention, le comportement du musulman ou bien la conduite, n'est-ce pas, du musulman est d'abord déterminée par son intention. Donc d'abord, il faut avoir une bonne intention pour faire ça pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, comment dire, quelle intention du croyant musulman. Et celui qui n'est pas croyant musulman, qui fait ça à but lucratif, son objectif, c'est, n'est-ce pas, son intérêt. Donc, le musulman croyant, quand il veut faire quelque chose, c'est d'abord, il a son intention qui est pieuse, qui est pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si cela va à l'encontre, n'est-ce pas, de ses intérêts. Mais par contre, l'autre, non, lui, c'est l'intérêt qui détermine, n'est-ce pas, tout. Deuxièmement, qui est en fait le musulman croyant conçoit, n'est-ce pas, l'éducation comme étant un devoir. Par contre, l'autre n'estime pas ça comme un devoir. Le musulman croyant estime ça comme un devoir. Donc, le préalable, n'est-ce pas, c'est un devoir. Les biens matériels, c'est secondo. Au premier plan, c'est un devoir. Deuxième, oui, on pourrait avoir, n'est-ce pas, des retombées positives matérielles qui nous reviendront. Donc, l'objectif, c'est Dieu. L'intérêt viendra après. C'est l'intérêt matériel. Par contre, de l'autre côté, l'objectif, c'est l'intérêt matériel. Les profits spirituels viendront en deuxième point. Donc, voilà en fait la différence entre les deux visions. À quel moment nous pouvons ressentir, n'est-ce pas, cette différence? C'est lorsqu'il y aura une divergence entre ce qu'on dirait, n'est-ce pas, l'intérêt de l'être humain et l'intérêt public. C'est-à-dire lorsque mon comportement, ma conduite serait, n'est-ce pas, en porte-à-faux ou bien à l'opposé, n'est-ce pas, de mes intérêts. C'est à ce moment que nous allons, n'est-ce pas, ressentir réellement quelle est, n'est-ce pas, la différence. Donc, chez les musulmans croyants et religieuses, ils se disent, oui, j'ai un intérêt qui est là et j'ai un devoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me base, n'est-ce pas, sur mon devoir et je délaisse, n'est-ce pas, mon intérêt. Mais par contre, celui qui fait ça à but lucratif, son objectif ici, c'est l'intérêt et sans suite, n'est-ce pas, viendra Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que nous, en tant que musulmans, en tant que croyants, nous ne devrons pas penser de cette sorte. Donc, pour conclure, nous disons ceci. Le musulman, les choses qui le motivent à s'orienter vers l'adoration, et autant pour moi, les éléments qui poussent l'être humain à l'éducation, n'est-ce pas, de son âme, est que d'abord, il estime l'éducation d'âme comme un djihad, qui est, n'est-ce pas, une bataille intérieure. Il estime ça également comme, comment dirais-je, le fait de se soigner physiquement, un mal qu'il faut, n'est-ce pas, soigner. Il estime ça que lui, ici, il est en voyage. Donc, il est venu avec des éléments qui est, n'est-ce pas, un cœur pur, donc qui devrait fournir, n'est-ce pas, le fort afin de bien voyager avec, n'est-ce pas, cela. Il y a en fait une différence entre la, comment on appelle l'éducation islamique et l'éducation à but lucratif, c'est-à-dire la conduite islamique et la conduite à but lucratif. Et ce qui les diffère, c'est d'abord l'intention et l'objectif. L'intention là-bas, c'est Dieu. L'intention de l'autre côté, c'est, n'est-ce pas, l'intérêt personnel. De deux, c'est, n'est-ce pas, l'objectif. Et l'objectif, lorsque cela, le musulman croyant voit que ses intérêts sont menacés de par, n'est-ce pas, sa bonne conduite, cela ne lui dit rien parce qu'il y a l'objectif, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il devrait perdre, n'est-ce pas, ses intérêts mondains. Mais lorsque quelqu'un fait ça à but lucratif, il se dit que l'objectif, c'est, comme on appelle, c'est la matière, c'est mon intérêt propre. Donc, la fin justifie les moyens. Donc, voilà en fait, en quelques mots, ce que nous pouvons dire concernant ce sujet. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.